Ce matin, j'aimerais reprendre un texte de l'évangile, ou des évangiles, puisque c'est un texte que l'on retrouve dans les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, le terme synoptique voulant dire simplement que ce sont trois textes qu'on peut mettre sur trois colonnes, et on retrouvera la même suite et la même présentation des événements et des enseignements. L'évangile de Jean, plus tardif, donnant, je dirais, une autre lecture de l'histoire de Jésus. Et dans les trois évangiles synoptiques, il y a une parabole que j'aimerais revoir, revisiter, échanger avec vous, tant il est vrai que même les textes les plus connus, ceux que nous avons entendus depuis l'enfance de notre vie chrétienne, sont toujours à redécouvrir. Le Saint-Esprit nous donne toujours la possibilité de percevoir, d'entendre des choses nouvelles. Alors cette parabole, je dirais presque, je vais vous la lire ou je vais la lire et puis en même temps dire « Ah, mais ça je connais ». Alors méfions-nous de ce que nous connaissons, à savoir que ça peut être aussi une manière de fermer la porte à l'Esprit de Dieu en disant « Mais tout ça je connais, je sais ce qu'il va dire, je sais ce qu'il y a derrière ». L'important, ce n'est pas ce qu'on entend, on verra, c'est aussi ce que l'on comprend. Alors, je voudrais lire avec vous la parabole du semeur qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. On aurait pu prendre Marc au chapitre 4 ou Luc au chapitre 8. On a ces mêmes textes, ces mêmes récits. Mais ici, il s'agit d'un texte qui ouvre dans l'évangile de Matthieu ce qu'on appelle les paraboles du royaume. Donc, vous avez plein de paraboles, et la première est celle-ci. Et celle-ci, ces paraboles du royaume font suite à un tout petit épisode qui pourrait paraître presque anecdotique, voire n'ayant aucun lien avec les paraboles du royaume. Or, juste avant les paraboles du royaume, Matthieu raconte cette histoire, comme Jésus parlait encore, c'est la fin du chapitre 12, à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. En fait, ce n'est pas par hasard si Jésus prononce ces paroles qui peuvent paraître extrêmement dures, puisqu'il y a presque comme un sentiment de rejet de sa mère et de ses frères, alors que non, ce n'est pas cela, c'est simplement resituer les choses et dire, voilà, les paraboles qui vont suivre dans l'Écriture, ce sont des paraboles qui disent « ceux qui seront frères, sœurs de Jésus-Christ, ce sont ceux qui feront la volonté du Père, et notamment dans une bonne compréhension des paraboles du royaume. » Alors, est-ce que nous sommes frères et sœurs de Jésus-Christ? Quand nous lisons les paraboles, est-ce que nous disons « voilà, je fais la volonté du Seigneur » ou est-ce qu'on se dit « ça, j'ai compris, ça me concerne un peu moins aujourd'hui, je suis un peu en dehors de ces choses. » Alors, est-ce qu'on est désigné par Christ, par sa main, en disant « ceux-ci sont mes frères et mes sœurs parce qu'ils font la volonté de mon Père. » Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla longuement en parabole. Il disait « le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. » Les oiseaux vinrent et mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. » Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ne l'ont pas vu, ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas la racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Étonnante parabole. J'ai envie de dire que c'est une parabole où il y a, on le verra, des paradoxes, une présentation qui est presque anachronique. Si on lit attentivement cette parabole du semeur, dont le titre me semble totalement inapproprié, eh bien, cette parabole me fait penser à une réflexion de mon père quand j'étais enfant. À l'époque, nous étions non pas en euros, mais en francs, et puis on avait des timbres, et sur les timbres, il y a des pièces de 5 francs en argent qu'on avait. On en avait rarement, nous, des pièces de 5 francs. C'était une somme un peu élevée pour nous. Mais quand on avait une jolie pièce en argent, dessus, vous savez ce qu'il y avait d'imprimé ou sur les timbres ? Une semeuse. Et mon père, qui était un ouvrier très rationnel, dit « Mais comment l'État a-t-il pu commettre une erreur aussi aberrante sur ce timbre ou sur cette pièce ?» Et moi, quand j'étais enfant, je dis mais pourquoi ?» Il m'a dit « Mais c'est absurde, c'est totalement absurde. » Je dis « Mais qu'est-ce qui est absurde ?» Puis il me disait « Si tu regardes la pièce ou le timbre, la semeuse sème contre le vent. » Vous voyez la semeuse dans votre tête, l'image ? On voit ses cheveux qui sont emportés par le vent et elle sème contre le vent. Ouais. Il me disait, c'est absurde. N'importe quel semeur te dira qu'il faut semer avec le vent. Sinon, si tu sèmes contre le vent, tu te prends toutes les graines dans la figure. C'est une absurdité. Eh bien, dans la parabole du semeur, il y a apparemment des choses, des éléments qui nous échappent, qui sont incompréhensibles si le Saint-Esprit ne nous révèle pas certaines choses ou ne nous ouvre pas les yeux là-dessus. Et puis, il y a des choses qui sont dans cette parabole de Matthieu, notamment. Rappelons-nous que Matthieu est un évangéliste qui s'adresse prioritairement au peuple juif, au peuple d'Israël. Alors, c'est vrai que quand on lit cela, on pourrait être amené à dire « Ah bah tiens, il est en train de faire des reproches à Israël qui n'a pas reçu le Messie, etc. » Lorsqu'il y a, entre la parabole et son explication, ce passage où les disciples disent « Mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole ?» Et Jésus leur répond « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux, cela n'a pas été donné. » Ouh là 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 ! De quoi on se dit « C'est quoi ce passage de l'Évangile où il y en aurait qui partiraient perdants d'avance ?» Ceux qui, comme les disciples, seraient gratifiés de la possibilité de comprendre le royaume de Dieu et d'autres qui ne l'auraient pas. Alors, quand on lit cela, on se dit, c'est un texte qui n'est une parole qui est dure. Quand Jésus dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Moi, qui ai grandi dans un milieu défavorisé, si j'entends cela, on dit, à celui qui n'a pas, on va en même temps enlever ce qu'il a. Je me dis, mais elle est où la bonté, la grâce ? L'amour de Christ. Et en fait, la clé de compréhension se trouve en fait dans le texte d'Ésaïe. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez bien et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien et vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ce qui est la clé pour comprendre cette notion, c'est que si notre cœur est insensible, et on ne parle pas des Juifs, on parle de tout homme, si notre cœur est insensible, si nous avons pris des positions insensibles à la parole de Dieu, à l'amour, à la grâce de Dieu, eh bien toutes les paroles que nous pourrons entendre glisseront sur nous sans accomplir l'œuvre que Dieu veut réaliser dans nos existences. En fait, Ésaïe dit bien, c'est car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Quand mon cœur est insensible, je me bouche les oreilles et je me ferme les yeux, spirituellement parlant. Et c'est ce que nous faisons. Et parfois, avec une telle volonté marquée d'un cœur fermé en disant « ça ne me concerne pas » que finalement, je ne vois pas et je n'entends pas ce que Dieu me dit. Ce matin, on a eu deux paroles qui nous ont été apportées. Avons-nous eu un cœur ouvert en disant « Seigneur, je suis disponible pour que tu me parles » ou avons-nous eu un cœur fermé en disant « non, moi, ce n'est pas tout à fait ». La parole est venue et elle n'accomplira rien. Alors, je parle en parabole afin que ceux qui ont un cœur bien disposé puissent rentrer dans cette révélation. C'est Christ qui dit dans l'évangile de Marc, au niveau de la parabole, « Pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. » Pour ceux du dehors. Rappelez-vous ce geste quand la mère et les frères disent « Voilà, est-ce que ce sont mes frères ou est-ce que ce sont ceux qui sont avec moi ?» Je vous rappelle que le mot « église »,« ecclésia », c'est ceux qui sont appelés à part, qui sont sortis, qui sont ici autour de Christ. Donc, est-ce que pour ceux du dehors, en dehors de Christ, il y a des paraboles qui sont fermées et hermétiques. Et pour nous qui sommes dans sa présence et dont le cœur est ouvert, à ce moment-là, les paraboles deviennent des paroles révélatrices de la pensée de Dieu. Dans l'évangile de Marc, il y a deux groupes. Et la frontière est déterminée par ceux qui sont autour de Jésus, dans sa présence, et ceux qui sont dehors. Dehors. Rappelez-vous les paraboles des invités, ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans, dans sa présence. Ainsi, ceux qui sont destinataires d'un message expliqué, ceux à qui tout est donné, ce sont ceux qui ont accepté la parole faite chair, comme on le lit dans l'évangile de Jean, dans son prologue. Voilà, la parole a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Est-ce que nos cœurs sont là pour recevoir, entendre et comprendre ? Dans cette parabole, il y a cette phrase qui dit aussi que lorsqu'un homme écoute la parabole, la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Là aussi, il s'agit d'une clé de cette parabole. Le tout n'est pas que la parole soit semée. Elle est semée. Encore faut-il faire une démarche de compréhension, comprendre quelle est la parole. Dans l'histoire de Daniel, vous rappelez ce prophète qui vivait en exil dans un royaume étranger et qui était dans la recherche permanente de la pensée de Dieu. Il a essayé de comprendre quels étaient les mystères de Dieu, quelle était la volonté de Dieu pour sa vie, mais aussi pour Israël. Et il est dit, lorsqu'un ange lui est envoyé, « Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, saisis la parole et comprends la vision. » Saisis la parole et comprends la vision. Ça veut dire qu'il y a un travail à effectuer. Est-ce que nous sommes prêts non seulement à entendre les paroles, mais à la comprendre, c'est-à-dire à la prendre pour soi ? La difficulté est souvent que les paroles sont annoncées semaine après semaine, année après année, décennie après décennie, et que l'on voit des enfants de Dieu qui entendent les paroles, qui entendent les paroles, qui entendent les paroles, mais qui ne font pas la démarche de se dire « je veux la comprendre ». Pensez à l'eunuque éthiopien qui quittait Jérusalem et puis qui était dans son char et qui lisait le livre d'Ésaïe, semble-t-il, et qui Il y a Philippe qui s'approche et dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Comment comprendrais-je si personne ne m'explique ? D'où l'importance extrême, la nécessité indispensable qu'il y ait dans l'Église des hommes comme Michel ou comme moi pour vous faire comprendre ce qui... Non, c'est pas ça ? Mais on est indispensable, sinon comment vous allez comprendre ? Comment vous allez saisir les pensées de Dieu ? Moi, ça, ce qui me rassure, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut vous permettre et me permettre de comprendre les mystères de Dieu. C'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu est là ! Et le Saint-Esprit va me conduire dans toute la vérité. C'est cela qui m'a été annoncé par Jésus. Donc l'obligation de comprendre, elle ne dépend pas de « Oui, mais j'ai pas eu Jean-Marc en entretien individuel pour m'expliquer ce verset, etc. » Même s'il y en a qui viennent me voir en me disant « Ce verset-là, il y a quelqu'un au début du culte qui me dit « J'ai pas compris, je vais regarder puis on en reparlera ensemble. » Mais ce qui m'intéressait, c'est que la personne a laissé le Saint-Esprit l'interpeller dans sa lecture. Je veux comprendre. Alors il y a à la fois le pasteur qui peut apporter une réponse, mais il y a une chose qui est certaine. Il y a le Saint-Esprit qui nous accompagne instant après instant dans la compréhension de sa parole. Et je parle de la parole écrite, je parle de la parole révélée, inspirée par la prophétie. Je suis dans une démarche où je dis « je veux comprendre ». L'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, un de ses, disciples, disait dans 2 Timothée 2,7 « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. » Il ne dit pas « parce que moi, avec tout ce que je t'ai apporté, tu sais, je suis quand même l'apôtre Paul. Donc, je vais t'aider à comprendre. » Non, « car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. » Et le Saint-Esprit dans notre vie est là pour nous donner de l'intelligence en tout. Amen. Alors, l'écoute et la compréhension. On pourrait peut-être dire que l'écoute, c'est une disposition, et que la compréhension, c'est une action que nous déterminons fortement. Lorsque l'ange s'adresse à Daniel, il lui demande de saisir la parole, et il lui donne l'ordre de comprendre. L'ordre. En préparant cette méditation, je me disais, on a au moins 4 enseignants, me semble-t-il, dans l'assemblée. Si je posais la question aux enseignants, est-ce qu'il suffit qu'un élève écoute pour que tout se passe bien ? Est-ce que ça veut dire qu'il a compris ? Pas forcément. Parce que sinon, on mettrait des bandes audio, on enlèverait les enseignants, il suffit qu'il écoute. Mais écouter ne suffit pas, encore faut-il faire une démarche pour se dire « je veux comprendre ». Alors c'est vrai dans les mathématiques, mais c'est vrai dans toutes les sciences, dans tout ce que l'on a à apprendre. Écouter ne suffit pas, après il faut que je comprenne. L'écoute est une attitude où la foi est en recherche. Est-ce que ma foi est en recherche ? C'est-à-dire, est-ce que je cherche à comprendre ? Un élève qui sera en classe, il dit, moi, j'ai assisté à tous vos cours. Donc, normalement, l'examen final, à la fin de l'année, les 2 doigts dans le nez, hein, ça sera facile. Mais est-ce que tu as compris ? Comme dit l'eunuque, ou Philippe à l'eunuque, est-ce que tu as compris ce que tu lis ? Pas forcément. Non, mais j'ai écouté. Je pense que dans les conseils de classe, il doit y avoir pas mal de professeurs qui disent « Ah, cet élève-là, il est présent, il écoute. » Mais en fait, la suite, elle n'est pas présente. Il ne fait pas une démarche de compréhension. Il ne cherche pas à comprendre les choses. On a entendu par Juliette tout à l'heure un texte du Deutéronome. Il y a le même texte à peu près dans l'Exode, au chapitre 15, verset 26. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais... » Si tu écoutes, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes, c'est-à-dire si tu les mets en action, toutes ces prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Entendre que Dieu est le Dieu qui guérit ne suffit pas. Encore faut-il que ma foi se mette en action. Écouter, ne pas faire l'effort de la compréhension, c'est recevoir la parole de Dieu le long du chemin. Il est dit que les oiseaux viennent et enlèvent cette parole semée. Christ nous dit qu'il s'agit là de l'œuvre de l'adversaire, à laquelle nous donnons notre libre participation. Ne pas accepter de comprendre la parole de Dieu qui nous est adressée, c'est faire le jeu de l'adversaire. Nous jouons avec lui. Et l'on s'étonne après d'être dans des positions de défaite, de souffrance, de mal-être. Est-ce que je veux entendre et comprendre ce qui est bon pour moi? Ce que Dieu nous dit, c'est que l'écoute passive, en croyant que Dieu va faire tout le travail, c'est pas suffisant. Et pourtant, c'est souvent ce qu'on, dans notre manière de croire et de vivre, dit, mais Seigneur, vas-y, accomplis ton œuvre. Et puis, il y a le Seigneur, c'est une phrase d'une chanson de Francis Cabrel, le Seigneur assis au bord du monde et qui regarde, qui dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, que fais-tu? Ma parole est là. Écoute et comprends, fais le choix de chercher la pensée de Dieu. Ce qui permet à Daniel de porter du fruit et d'être un prophète exceptionnel, ce n'est pas qu'il se soit contenté d'écouter. Les autres croyants juifs, le peuple en exil, avaient les mêmes textes que Daniel, les mêmes messages. Mais il est dit, au commencement de tes supplications, ça veut dire qu'il s'est mis en recherche. Il s'est mis en recherche de ce qui était bon, de ce qui était la pensée de Dieu. Comment comprendrai-je si personne ne m'explique, dit l'eunuque. Il est déjà en demande de lumière. Est-ce que je veux être dans cette position? C'est Saint Anselme et Saint Augustin ont dit les deux la même chose. Il dit, je ne cherche pas à comprendre pour croire. Je crois pour comprendre. Est-ce que je crois dans ce Dieu de révélation, ce Dieu qui se révèle, qui se montre, qui se dit, pour ensuite comprendre? C'est la clé. Si je cherche à comprendre, d'abord, je pense à un ouvrage qui est paru il y a quelques années, des frères Bogdanov, où il partait de l'origine du monde, etc. Il disait, à un moment donné, au bout du bout de la compréhension de la constitution, il n'y a que Dieu. Est-ce que c'est cette démarche-là qui me donne une révélation de Dieu? Ah, ils ont dit, c'est peut-être Dieu qui a, ou quelque chose qui ressemble à Dieu. Non, ce n'est pas ma compréhension qui me donne la foi, c'est ma foi qui me donne de comprendre ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Ma démarche de compréhension est souvent parasitée par mon cœur. On a entendu Ésaïe qui disait, parce que votre cœur s'est endurci. Et c'est vrai que notre cœur, je dirais qu'il est entre nos oreilles et l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et dans notre cœur, s'il y a des choses qui viennent parasiter, on a une communication qui est complètement perturbée, voire mal interprétée. Il y a dans les principes de communication un petit texte que j'aime beaucoup qui explique un petit peu toute la difficulté de communiquer entre nous. Entre ce que je pense et ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Et quand on parle notamment avec des personnes qui sont en souffrance, en difficulté depuis de longues années, on s'aperçoit qu'il y a dans le cœur de l'homme des éléments qui font que ce que nous entendons et ce que nous comprenons est filtré par notre cœur. Qu'y a-t-il dans notre cœur qui nous empêche de bien comprendre la pensée de Dieu? Alors il y a parfois des a priori, il y a des fois des envies de comprendre qui viennent perturber le message. J'ai tellement envie de, de comprendre ce que j'aime ou ce que j'ai envie. Ah, le psaume 34 dit « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Ceux qui cherchent. Est-ce que je suis un homme et une femme en démarche de recherche? Moi, j'aime beaucoup, je vous l'ai cité à nombreuses reprises, mais c'est un de mes versets préférés, le psaume 14, verset 2, « L'Éternel du haut des cieux, je citais Cabrel tout à l'heure, « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » On essaye, on pense qu'on est des êtres intelligents, et on l'est certainement, mais parfois notre intelligence est tellement, tellement abîmée par le péché que finalement, on n'est pas dans une disposition de cœur, une attitude de cœur qui nous permet de nous ouvrir en toute humilité à ce que Dieu nous dit. Je disais que la parabole du semeur est assez étrange. Quelqu'un qui faisait l'analyse de ce texte disait il y a quelque chose d'étrange dans ce texte, c'est qu'on l'appelle la parabole du semeur. Vous êtes bien d'accord avec moi? On ne l'appelle pas la parabole de la semence. Ok? Sauf que si vous lisez le texte, ce texte ne mentionne le semeur qu'une seule fois, en préambule. Et ensuite, on n'en parle plus du tout. Alors, il est là, puisqu'il agit, on le voit à travers de son action, mais le semeur, il est juste dans l'introduction, et encore, dans le texte grec, il n'est même pas mentionné, puisque c'est une phrase où il dit « au temps de la semaille ». Il sortit pour semer. Le « il », c'est quelqu'un de, voilà, qu'on ne définit pas. On sait bien que dans la parabole, l'explication, c'est de Dieu dont il s'agit. Mais quelque part, il n'est pas présent, ultra présent, juste à l'entrée, dans le mot inaugural de la parabole. Il sortit. Au temps de la semaine, il sortit. Bon. Et je trouve que cette lecture-là, en se disant, tiens, au centre de la parabole, ce n'est pas le semeur qui est présent, c'est la semence qui est répandue. Ça nous parle aussi d'un Dieu qui est présent, mais qui, dans cette parabole-là, pour le coup, est absolument absent aussi. Ou en tout cas, il y a une forme d'absence. La lumière n'est pas lui mise dessus. Absent parce qu'il n'intervient pas à chaque instant. Et c'est vrai dans notre vie. Nous le percevons rarement dans ce qui nous entoure, ce qui nous arrive. Il nous arrive de rêver d'un Dieu omniprésent, d'un hyper-Dieu, vous savez, qui agirait, on appuie sur un bouton, hop, et Dieu agit. Je pense parfois que dans notre prière et notre intercession, nous essayons de faire agir Dieu. Vous croyez pas? Hein? Merci Seigneur parce que tu vas. Merci Seigneur, tu vas faire ceci. Attendez. Et à un moment donné, est-ce qu'on peut s'arrêter? Seigneur, ça, c'est vraiment ta volonté dans ma vie, dans celle de mes enfants, dans mes relations? Ça, est-ce que Seigneur... Non, on est dans une société où on appuie sur des boutons et on obtient ce que l'on veut. Et on a un peu l'impression que Dieu agit comme cela ou qu'il peut agir comme ça face à nos demandes. Et dans cette parabole, le semeur n'est quasiment pas mentionné. On pourrait se dire, mais où est-il? On dit simplement, il est dans ce que produit sa présence, la semence qui est répandue et les fruits qui sortent de terre. Il est là-dedans, dans ce que sa parole accomplit. Et dans nos vies, oh, il n'est pas très présent, le Seigneur. Ça fait des semaines, des mois que je crie à lui, que je l'appelle, que je demande, et puis je ne le vois pas. Je ne le vois pas réaliser ce que je demande. Mais est-il absent pour autant? Est-ce que le semeur est absent au moment des semailles? Non, il est là. L'Évangile mentionne le semeur une seule fois, en commençant par le premier mot. Ensuite, elle le tait, elle ne parle plus de la semence, elle évite à la fois un mutisme qui serait un trop peu, comme si Dieu était totalement absent, mais en même temps, elle évite aussi le bavardage qui en dit beaucoup trop, comme s'il se donnait partout, constamment, et que Dieu était dans tous les coins, il faisait tout. Ce qu'on aimerait bien, n'est-ce pas, dans notre vie. Ah. Et pourtant, Dieu se manifeste. Il se manifeste à nous et agit parce que son évangile sème et fait pousser en nous cette parole de vie. Si nous comprenons. Je viens de terminer un livre cette semaine, qui n'est pas un livre chrétien, mais que je vous conseille parce que c'est un livre assez tout petit livre. Ça s'appelle La Tresse. Je vous le conseille. Trois femmes sur trois continents différents. Une femme avec sa petite fille de 6 ans en Inde, une intouchable. Une Italienne sur une île à Palerme. Et puis une Américaine, grande avocate à New York. Et puis le récit se passe sans qu'on comprenne quel va être le lien ou la chose qui va réunir. Et à un moment donné, à la fin du livre, on se rend compte comment les destins de ces trois personnages vont être porteurs de guérison pour les trois, d'une manière assez étonnante. Comment Dieu agit. Moi, je crois que c'est aussi un de ces messages. Comment Dieu agit et est présent, même si nous ne le voyons pas. Même si, j'ai envie de dire, il nous semble absent, mais le fruit de sa vie en nous, et dans la vie de ceux qui nous entourent, nous montre que Dieu est présent. Le semeur sorti. Et ensuite, c'est le travail de la semence. Dans cette parabole, il y a aussi quelque chose qui est étonnant. C'est la maladresse de ce semeur. Dieu est maladroit. Si on pense que le semeur, c'est Dieu, Dieu est étonnamment maladroit. Enfin, vous avez déjà vu, vous, un agriculteur, un paysan ou un jardinier émérite qui commencerait à semer à toute volée sur le chemin, dans les ronds, sur la bonne terre, etc. On se dirait, mais attends, réfléchis un peu. Il n'y a que la bonne terre qui mérite de recevoir la semence. Ce que nous dit cette parabole par cette forme presque d'absurdité dans le geste, c'est que en chacun, même ceux qui sont des terrains ingrats, où il y a le péché, où il y a l'imperfection, où il y a des cailloux, où il y a des ronces, où il y a des herbes folles qui vont pousser. Même dans ces terrains-là, Dieu sème sa parole. Parce qu'il y a en chacun, même sur un chemin, il y a même là un peu de terre pour recevoir cette parole. Et ça veut dire que dans cette parabole, Dieu dit « Je suis un Dieu de grâce ». Bien sûr, je pourrais me contenter de semer dans des terres très bien préparées. Oh, Juliette, ça va. Juliette, ça, c'est une terre. Elle, on va semer. Allez. Ah ouais, mais alors, Jean-Marc, lui, il y a beaucoup de cailloux, il y a beaucoup de ronces, donc on va attendre un peu. Lui, il n'est pas digne. Et puis, Christiane. Ah, ça, là, Christiane, combien, 40, 50 ans de vie chrétienne. Là, on peut semer à outrance. Non, Dieu n'a pas ce regard-là sur nous. Il dit, même sur des terrains qui sont ingrats, il y a des espaces où Dieu veut déposer sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Hein? Sinon, je vais me dire, mais où est-ce que je suis, moi? Est-ce que je suis digne de recevoir la parole de Dieu? Puis, il y a une autre anomalie, mais ça, c'est Michel qui pourrait nous en parler plus. C'est quand Jésus raconte cette parabole, il y introduit quelque chose d'assez, je dirais, fantastique, extravagant. Et cette chose, c'est que il dit un grain en donnera 100. J'ai semé des radis, ils sont montés en fleurs, il n'y en a aucun qui a donné 100 graines pour replanter des radis. Vous imaginez, on est, avec ce chiffre-là, qu'on puisse multiplier par 10, par 20, d'accord, mais par 100. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'extravagance, mais en fait, il s'agit pour Jésus de dire on est au-delà du rendement naturel. Au-delà. Un grain en rapportera 100. Et quand je me regarde, je me dis, mais si je pouvais au moins porter 10 fois ce que je suis, bon, allez, 8, 7 fois, 5, je serais content. Et Jésus dit, un grain emportera 100. C'est-à-dire, au-delà du naturel, dans une dimension surnaturelle et spirituelle, Dieu dit, ta vie peut aller jusqu'à porter 100 fois du fruit. Au-delà de ton imagination et même de ta compréhension naturelle. Est-ce qu'on veut rentrer dans cette dimension-là? C'est ce que nous dit le texte du semeur. Au-delà du naturel, 100 fois! C'est pas possible, Seigneur. Si, avec moi, avec ma grâce, avec ma vie, c'est possible. Ma vie a vaincu la mort. Ma vie a vaincu le péché. Et ma vie fait que vous ferez des choses plus grandes que moi je n'en ai fait. C'est pas possible, Seigneur. Au-delà de ce que je peux faire. Avec cela, on pourrait aussi se dire que ce texte est étrange par rapport aux autres textes de parabole. C'est qu'il se termine bizarrement. Vous trouvez pas ? Lorsque la parabole se termine, il est simplement dit, donc, il y en a qui sont tombés dans la bonne terre et donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Moi, j'aurais voulu savoir quel était le total de la récolte à la fin de l'été. J'aurais voulu savoir quel est le profit qu'on a retiré le semeur. J'aurais voulu savoir quelle a été la répartition des actionnaires du champ, pour savoir ce que ça a produit, si c'était intéressant. Non, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, au moment présent où la semence est semée. On ne s'intéresse pas au fait, la semence était de la semence Monsanto, qui se reproduit ou pas? Est-ce que c'était de la semence qui a été étudiée en laboratoire? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'il y a des ONG, des OGM, pardon, j'avais dans mauvais ordre. Est-ce que... Non, maintenant, on se préoccupe pas de demain, on se dit, là, maintenant, est-ce que tu entends et tu comprends? Comprendre pour mon maintenant avec Dieu, ce que Dieu veut me dire, ce qu'il veut accomplir dans ma vie. Ah, on a une obsession de l'avenir, hein? Non, vous trouvez pas? On voudrait tellement savoir ce dont demain sera fait pour moi, pour mes enfants, pour ma société. On aimerait bien. Mais c'est maintenant que ça se joue, entre moi et Dieu, entre moi et les autres de la société environnante. C'est maintenant, c'est mon présent qui fera ce que l'avenir sera. Et le semeur, il a semé. Après, c'est en fonction de ma volonté de comprendre. Alors la parabole du semeur, j'ai envie de dire, ce n'est pas la parabole du semeur, c'est la parabole de la semence. Le semeur est là. Je me dis souvent qu'on attend de Dieu tellement de choses qu'il soit présent tout le temps. Et c'est parfois, je dirais, un peu le travers évangélique. Il faudrait que Dieu soit au garde à vous, prêt à agir dès qu'on prie, dès qu'on demande, dès que, etc. Et quand on relit l'Ancien Testament, et notamment les grandes figures de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, etc., on s'aperçoit qu'ils ont eu des temps de révélation. Et ils ont reçu, ils ont entendu, et ils ont cherché à comprendre la pensée de Dieu, et ils sont rentrés dans cette pensée de Dieu. Mais si vous regardez la vie d'Abraham, il y avait des années, pour pas dire des décennies parfois, entre des moments où Dieu lui parlait et il passait à une autre étape. Des années. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces années-là? Il est allé à l'église tous les dimanches. Il a chanté des cantiques. Et puis il s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu tardes. Puis dimanche après dimanche, on sentait bien qu'Abraham, dans l'église, était dans les premiers rangs. Puis au fur et à mesure, il a reculé, est allé dans les derniers rangs. Et puis de plus en plus, il a arrêté de chanter parce qu'il était en colère contre Dieu, parce que Dieu lui parlait pas. Rendez-vous compte, ça fait 10 ans qu'il m'a pas parlé. Non, Abraham, il a entendu. Et il a cherché à comprendre la pensée de Dieu. Il s'est trompé parfois. Allez, je vais aller en Égypte, dans l'église d'à côté, je serai mieux. Puis en fait, le Seigneur dit, reviens à ta place. C'est pas là que je te veux. Parfois, on essaye d'aller voir ailleurs, comme on dit, là où l'herbe est plus verte. Et puis le Seigneur dit, non, reviens là où est ta place. Et je ne parle pas d'église, je parle de là où est ma place intérieure. Comme dirait Paul Tournier, là où je dois, où est mon lieu. Mon lieu. Ah. Est-ce que je suis dans cette attitude de m'attendre à Dieu et ensuite de comprendre et de marcher? De marcher dans ce que j'ai reçu, ce qui m'a été donné de comprendre. La parole ne porte de fruits que si notre cœur en fait sa nourriture et si elle pénètre notre être tout entier. Physiquement, c'est quelque chose d'assez étonnant, vous savez, quand on mange et quand on boit. Parce qu'en fait, on assimile, c'est comme un peu du carburant pour notre corps. Et puis cette nourriture, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais il y a tout un mécanisme pour les boissons, pour la nourriture, pour se transformer en énergie et faire fonctionner nos membres, tout ce qui nous permet de vivre. Est-ce que la parole de Dieu est reçue comme cela ? Comme une nourriture qui pénètre mon être tout entier. Vivante est la parole de Dieu. Vivante, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Les oiseaux de cette parabole sont des oiseaux qui viennent, je dirais, ôter la semence du terrain. Ah, les oiseaux. On voit au moment des semailles comment les agriculteurs peuvent essayer de chasser. Moi, je me suis retrouvé avec tout un régiment bloqué en pleine nuit sous la pluie parce qu'on croyait qu'on était attaqué par un groupe ennemi. On était dans une manœuvre qu'on appelle des manœuvres et puis on devait se battre contre un autre régiment. On était sous la pluie en plein hiver, dans la boue, dans la gadoue, avec les ponchos, vous savez, militaires et tout. Puis on a passé la nuit, simplement parce qu'il y avait un bruit de canonnade qui disait bah, « l'adversaire est en face ». Et puis j'avais un agriculteur à côté de moi qui est un ami, il s'appelait Michel, et c'est pas celui-là, un autre, et qui me dit « mais t'inquiète pas, on n'est pas attaqué ». Je dis « ah bon ?» Et toute la nuit, il a passé, il me dit « mais t'inquiète pas, ils sont pas là ». Je dis « ah bon ?» Il me dit « mais non ». Puis au petit matin, tous les gradés ont regardé la ligne adverse. On était dans un fossé devant un énorme champ, une grande étendue du côté d'Amiens. Et en fait, au milieu du champ, il y avait un petit mortier qui tirait toutes les 3 minutes parce que le paysan avait installé ce mortier-là après ses semailles pour effrayer les corbeaux. Donc vous aviez un régiment tout entier dans la boue et la gadoue à cause d'un appareil pour chasser les corbeaux. Ouais. On essaye de chasser les corbeaux. Qu'est-ce qu'on met pour chasser les oiseaux qui viennent reprendre la parole de Dieu dans nos vies? Les sentiments qui sont là de doute, de colère, les blessures du passé qui me font dire « mais non, la parole de Dieu n'est pas pour moi, elle ne peut pas s'accomplir de cette manière. Il n'est pas possible que je porte 100 fois du fruit, vu ce que je suis, le regard que j'ai sur moi. » Quels sont les sentiments qui m'habitent dans mon cœur? Rappelez-vous ce verset au tout début de l'Exode. C'est à cause des pensées de leur cœur. Quelles sont les pensées de mon cœur qui me font douter ou qui filtre ce que Dieu me dit. La parole et les sentiments qui sont en moi, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Oh, c'est merveilleux. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment. Parce qu'en fait, cette démarche-là, pour que je porte du fruit, c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps. Dans le temps. Est-ce que je suis prêt à donner à Dieu du temps pour accomplir sa volonté? Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction de la richesse, les soucis du monde. Alors on dit, oui, bon, la richesse, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas riche au point que ça empêche l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Mais les soucis du monde, là, on est peut-être un peu plus concerné. Vous avez entendu parler de ce grand capitaine d'industrie qui a été mis en prison au Japon. La première réaction, Francine et moi-même, c'est, sans savoir trop si les éléments retenus à charge sont réels ou pas, mais se dire, mais comment quelqu'un qui peut gagner, je crois, 19 ou 20 millions par an, peut encore avoir, ressentir la nécessité d'obtenir des avantages en dehors de ce qu'il a. Le souci de la richesse. Alors là, il l'a, lui. C'est-à-dire, comment je peux encore gagner plus ? Bon, on verra si les faits sont avérés. Mais les soucis du monde. Et là, pour le coup, je me dis, mais en quoi les soucis finissent par empêcher la parole de Dieu d'entrer dans une position de paix, de grâce. Ah oui, mais je suis trop inquiet pour... Il y a des soucis qui sont légitimes. On ne va pas dire que ce n'est pas légitime. Mais comment la grâce, la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu, la parole que je reçois et que je comprends, me montre un Dieu qui soit plus grand que les soucis qui m'habitent ? Parce que si Dieu est à la taille de nos soucis... Alors là, pour le coup, je dirais, on a du souci à se faire. Mais si Dieu est plus grand que cela, alors ça me permet non pas d'éluder les soucis, mais de les recevoir, de les percevoir et de les vivre dans leur juste mesure. Parfois, il y a beaucoup d'épines qui empêchent la parole de Dieu de s'accomplir. Je terminerai juste avec la bonne terre, puisque on est tous concernés, là, la bonne terre. Hein, on est bien d'accord. Les ronces, les soucis, les cailloux, non, c'est pas... Enfin, on va quand même dire un mot de la bonne terre, non hein. La bonne terre, celui qui a reçu, il porte un grain qui en donne 100, un autre 60. C'est-à-dire la démesure des promesses de Dieu. Nous n'avons pas idée de ce que Dieu peut et veut accomplir dans nos vies. Moi, j'ai souvent le sentiment, quand je regarde ma vie, je me dis, mais... Et c'est vraiment un sentiment qui m'habite. J'aurais tellement pu ou dû faire plus. C'est-à-dire qu'en quoi j'ai pu limiter l'œuvre de Dieu dans ma vie, dans certains domaines. Et je me dis, mais... Quand je passerai en jugement, puisque je passerai aussi en jugement, Dieu me dira et me révélera tout ce que je n'ai pas été. J'espère qu'il me dira, entre dans la paix de ton maître, bon et fidèle serviteur, mais il me dira aussi, tu sais, j'ai des entretiens annuels avec tous les salariés, pas tout à fait régulièrement, parce que j'ai un peu de retard, mais l'entretien annuel vise à dire non seulement aux salariés ce qui se passe bien, quelles sont les perspectives qui peuvent s'ouvrir à eux dans l'année qui vient, et puis aussi de dire, bah, dans tel ou tel domaine, j'en attends un peu plus. Il me semble que dans votre présence, votre fonction, là, il y aurait certainement des choses à exploiter davantage. Et je me dis, quand je vais apparaître devant le patron éternel, que j'aurai mon entretien éternel, il me dira, tu sais, il y avait une dimension encore plus grande pour toi. Or, mon travail aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas vis-à-vis de moi d'amender ma terre, ma vie, d'entendre et de chercher à comprendre quelle est la pensée du Dieu pour moi, afin que je porte 100 fois, 60, 40. Au-delà de ce que ce monde peut imaginer. Seigneur Jésus, nous sommes à l'écoute de ta parole.